Hello, hello, j'espère que vous allez bien, c'est Najwa et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire d'Étincelle, le podcast inclusif qui met en lumière les femmes entrepreneurs à impact positif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire la connaissance d'Aurélie, cette jeune entrepreneure qui occupe plusieurs métiers à la fois. Elle est consultante CEO, elle est une excellente copywriter, elle est psychologue et aussi elle est autrice. Donc on va découvrir dans cet épisode son parcours et surtout, elle va nous livrer d'excellents conseils. Allons-y! Merci d'avoir accepté notre rendez-vous.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Je t'en prie. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, cher auditeur et auditrice?
Alors du coup, moi je suis Aurélie Nussbaumer, je suis psychologue et praticienne en hypnose et à côté de ça, je suis aussi consultante en SEO, donc tout ce qui est référencement naturel, donc j'ai plusieurs casquettes, je touche un petit peu à tout, mais j'aime bien cette diversité d'activités qui sont un peu complémentaires puisque tout me sert pour développer mon activité libérale et les autres projets que j'ai à côté.
Justement, t'es psychologue, t'es auteur, t'es entrepreneur. Du coup, est-ce que tu peux nous parler comment tu fais pour allier entre toutes ces activités?
Déjà, j'ai des moments où par exemple, le vendredi, on va partir plus là-dessus. Le vendredi, ça va être dédié à mon activité libérale en cabinet. Donc là, c'est un jour fixe où je sais que le vendredi, de toute façon, je suis en cabinet. Après, les autres jours, ça va être plus en fonction un petit peu de mon humeur, de mes envies, parce que le reste, c'était en fait de pouvoir organiser un petit peu mes activités, mon temps. Et ce que je fais quand je ne suis pas au cabinet, c'est de pouvoir créer du contenu justement pour me faire connaître en tant que psychologue. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Mincir autrement. Donc ça, je le fais la semaine en gros. Et puis pareil, pour tout ce qui est conseil en référencement naturel, ça va être le reste de la semaine, du coup du lundi au jeudi, où j'aide en gros mes collègues, hein, thérapeutes, praticiens, professionnels de santé, à développer leur activité libérale avec justement des conseils de référencement, tout ce qui tourne autour. C'est pas commun, on sait pas trop comment ça fonctionne, créer un site internet et se faire connaître, donc mon but c'est un petit peu de les aiguiller là-dedans, toujours en gardant effectivement cette ligne directrice de thérapeute finalement, peut-être rester dans cette niche-là, on va dire.
Super. Et du coup, aujourd'hui, tu te considères comme une slasheuse, c'est-à-dire une personne qui fait beaucoup de choses à côté. Est-ce que justement le fait d'être slasheuse aujourd'hui, c'est pas difficile pour communiquer sur toutes ces activités?
C'est vrai que c'est pas évident. Même mon conjoint, il a du mal à comprendre des fois ce que je fais. Tellement je fais plein de choses. Mais j'ai quand même réussi à me centrer un petit peu. Et dans ma biographie Instagram, par exemple, moi, je me définis un peu comme psychologue entrepreneur. Comme ça, ça permet d'avoir la casquette de psy, mais aussi le côté entrepreneurial à côté. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'expliquer un petit peu à des personnes qu'on connaît pas, même à des membres de sa famille, ce qu'on fait concrètement quand on a plein d'activités comme ça. Donc en général, j'en choisis une ou deux et voilà, je rentre pas dans les détails.
En fait, tu fais des présentations selon le jour, c'est ça?
C'est ça, un petit peu selon la personne que j'ai en face de moi, ce qui peut passer, ce qui peut être compris en fait, exactement.
Du coup, si je vois à peu près ce que tu fais sur Instagram et sur ton site, je vois que tu es une spécialiste de création de contenu. Est-ce que tu peux nous parler des clés essentielles pour réussir une stratégie de contenu ou même pour réussir des articles, pour que ça soit attractif et sexy en quelque sorte?
Ouais. Alors déjà, la première chose à définir, ce serait un petit peu de savoir à qui on parle, à qui on s'adresse. Parce que c'est bien beau de créer du contenu, mais le but, c'est pas juste de se faire plaisir et de se dire « Oh, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça et demain d'un autre truc qui n'a rien à voir. » C'est vraiment de mettre en place une stratégie dès qu'on commence et de se dire qui je veux viser en fait, qui je veux toucher avec mes contenus, et de se dire que c'est toujours à ces mêmes personnes en fait qu'on va parler, et du coup on va créer du contenu autour des questionnements que ces personnes peuvent avoir. Moi par exemple, je vais créer du contenu pour les thérapeutes, praticiens, donc je vais vraiment me mettre à leur place, et je suis passée par là aussi, donc c'est un peu plus facile aussi de se dire de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs difficultés pour pouvoir y répondre. Et après, moi je suis une grande planificatrice, donc j'aime bien tout organiser, donc c'est vrai que je vais vraiment prévoir en amont un petit peu les contenus que je vais sortir pour être au clair en fait et avoir une vision d'ensemble. Et du coup, je vais noter un petit peu toutes mes idées. Notamment, j'utilise Trello où j'ai un tableau où je note voilà, toutes mes idées dedans. Et puis après, je vais regarder un petit peu au niveau des tendances aussi dans Google, avec Google Trends par exemple, pour voir s'il n'y a pas des tendances qui se démarquent à des périodes de l'année. Je vais prendre un exemple tout bête, mais tout ce qui est perte de poids, arrêt du tabac, ça ne va pas forcément être les mêmes recherches chaque mois. Et du coup, c'est plutôt bien de s'allier, enfin de s'aligner plutôt. Au niveau des recherches pour toucher bah, forcément le plus de monde au bon moment. Et puis après, ça va être d'avoir un titre un petit peu accrocheur. Et ce qui marche bien, c'est tout ce qui est les titres en comment. Comment faire ceci en X étapes ou simplement avec les chiffres. Hein, par exemple, X conseils pour réussir dans la vie. Des petites choses comme ça. Parce que forcément, c'est bien beau d'écrire. Mais après, il faut être lu aussi. Donc, de pouvoir attirer un petit peu rien qu'avec le titre. C'est un petit peu un challenge hein, carrément, parce que du coup, on a peu d'espace pour susciter l'intérêt et donner envie au lecteur d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment de penser à tout ça en amont, histoire de ne pas s'épuiser et de ne pas, je dirais, créer du contenu dans le vent. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant finalement d'y passer des heures et des heures, parce que mine de rien, c'est chronophage. S'il n'y a personne derrière qui nous lit ou qui nous écoute, bah, c'est vrai que c'est pas forcément. Ça sert à rien, quoi. C'est une perte de temps. Et c'est aussi frustrant de se dire qu'on a passé tout ce temps et qu'il n'y a pas de résultat. Parce qu'il faut le dire aussi, la création de contenu, ça fait partie d'une stratégie marketing qui permet d'attirer, je dirais, nos prospects, nos clients via nos contenus sans avoir à démarcher tout ce que tout le monde déteste. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir en amont pour qu'il y ait des résultats. Au final, parce que vraiment le but c'est de pouvoir avoir des clients hein, derrière, mine de rien, et de pouvoir en vivre, de proposer un petit peu notre expertise, nos produits en fonction de la thématique qu'on a abordée et de résoudre réellement un problème que rencontre notre prospect. Donc je dirais planification, j'ai commencé, je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit au début maintenant?
Connaître le besoin de
Planification.
l'utilisateur.
Ouais. C'est ça, et de définir un petit peu le client idéal pour savoir à qui on parle concrètement.
Super, merci beaucoup. Et toi, du coup, ta stratégie de contenu, tu le fais combien de jours en avance? Un mois d'avance, 2 mois
Alors là, je suis hyper en retard, tu vois, là pour l'instant, je fais un petit peu au jour le jour, mais je vais m'y mettre là juste après, tu vois, j'ai prévu de poser à plat les choses, et je vais le faire sur 3 mois. Là, je vais me poser et puis me dire, bah, tiens, sur les prochains mois, qu'est-ce que j'ai envie de publier, quel jour, quelle date, enfin, quel jour, quelle heure. Comme ça, c'est posé et j'ai moins de charge mentale parce que de faire au jour le jour, c'est épuisant parce que du coup, ça demande une réflexion, de se dire, ok, je vais parler de ça, comment je vais le faire, etc. Alors que si tout est posé en amont, on a juste à, hop, on ouvre notre agenda, on sait de quoi on parle, on le fait et c'est réglé. Donc, idéalement, de le faire à 3 mois, c'est pas mal. Là, je suis extrêmement en retard, donc ne faites pas comme moi, mais je vais me rattraper tout à l'heure.
Et du coup, tu fais un thème par semaine ou plutôt un thème par mois?
Alors, je ne fais pas forcément des thématiques, je vais plutôt. Alors, t'entends thème ou plutôt contenu, c'est-à-dire un article par mois, par exemple, t'entendais ça ou
Non, c'est
autre
vraiment
chose?
par exemple si tu prépares ça d'avance, ben, comment tu sais que par exemple tel jour tu vas parler d'un sujet ou d'un autre ou d'une citation par rapport à quel.
D'accord.
Est-ce que tu fais ça par thème, c'est-à-dire je sais pas moi, tu vas
Oui,
parler de
je vois.
mincir et du coup tu vas parler de mincir pendant une semaine et la relation de perdre le poids par exemple avec les croyances limitantes dans la deuxième semaine. Est-ce que tu fais comme ça ou tu fais autrement?
Je vois. Ben non, en fait, je ne fais pas forcément comme ça. Je me laisse vraiment la liberté, en tout cas pour les réseaux, d'y aller un peu au feeling sur le moment. Sauf quand j'ai des lancements prévus ou que j'ai vraiment voilà, une stratégie solide à mettre derrière. Donc effectivement, là, par exemple, pour le mois de janvier, j'ai mon programme Mincir Autrement qui va sortir. Donc là, ma stratégie de contenu, elle va vraiment être orientée pour servir un petit peu mon programme. Donc d'amener effectivement tous les questionnements et les problématiques que ma cliente idéale pourrait se poser pour que je puisse lui apporter déjà des éléments de réponse afin d'amener naturellement en fait... au programme, mais sinon en dehors des lancements, non, pas de thématique définie, c'est vraiment un petit peu en fonction de mon inspiration et de mes envies, je dirais.
Super. Tu as dit tout à l'heure que tu as sorti ton premier livre, Mincir autrement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre?
Oui, alors du coup, je l'ai sorti au mois d'octobre 2020, ce bouquin. En fait, j'ai voulu le sortir tout simplement parce que trop de fois, je trouve. Enfin, je vais reprendre un petit peu ma phrase. J'ai travaillé pendant un petit moment dans une entreprise où on accompagnait les personnes à perdre du poids, mais il y avait un aspect très commercial qui me dérangeait énormément. Et tout était un peu misé sur il faut prendre des compléments alimentaires ou il faut faire des régimes. Et tout ça, en fait, on sait que ça ne fonctionne pas. Hein. Aujourd'hui, maintenant, enfin voilà, c'est vraiment. Je pense que tout le monde est au courant que les régimes, ça ne marche pas, qu'il n'y a pas de solution miracle. Et l'idée, c'était de pouvoir remettre un petit peu au cœur la démarche minceur, mais vue sous un autre angle, d'où le titre, hein, Mincir autrement, à travers bah, la psychologie, un peu le développement personnel, l'hypnose, tout ce que je fais finalement pour déclencher peut-être des déclics ou aider les gens à se dire qu'en fait, la perte de poids, c'est pas que dans l'assiette, c'est aussi dans la tête, sans être fou, hein, au contraire, c'est simplement que on a des croyances, on a des blocages inconscients dont on n'a même pas forcément idée, qui viennent des fois ruiner un petit peu tous les efforts qu'on peut faire. Donc c'est hyper important de pouvoir travailler dessus aussi. D'où l'idée effectivement de mincir autrement, parce que je ne parle pas du tout d'équilibre alimentaire ou quoi que ce soit dans ce livre, mais vraiment l'aspect psychologique finalement de la minceur, en donnant des petites pistes pour les gens qui aimeraient mincir autrement et faire les choses voilà, plus naturellement, je dirais.
Ce livre, ça sera vraiment à offrir là pour ces périodes de fêtes et aussi pour prendre de bonnes résolutions pour 2021.
C'est ça. Alors, je suis pas forcément fan des bonnes résolutions parce qu'en général, on les tient jamais. Mais de se dire que si c'est important pour nous, effectivement, ça peut être le déclic et le bon moment de se lancer.
Justement par rapport à toi qui entame beaucoup de projets en parallèle, pour toi c'est quoi les étapes clés qui t'ont permis de passer de l'idée au projet concret?
Alors les étapes, moi ce que je fais en général, c'est que quand j'ai des idées, je vais vraiment les noter. J'ai besoin vraiment de tout poser sur papier en général, de noter tout ce qui me vient et puis après de me dire ok. Si je prends l'exemple du livre, par exemple, ça serait de noter tous les sujets que je voulais aborder et puis ensuite de voir s'il n'y a pas des éléments qui pourraient aller ensemble pour les regrouper en chapitres, en sous-parties, etc. Et puis d'établir peut-être aussi une certaine chronologie pour quelque chose qui soit logique et concret, pas que ce soit un petit peu tout mélangé, brouillon, et vraiment de faire les choses étape par étape. Et pareil, hein, pour créer par exemple ce programme en ligne, je suis partie effectivement de mes idées de base que j'ai regroupées en modules avec des leçons. Et puis je me suis dit bah, dans quel ordre ce serait le plus cohérent pour une personne qui connaîtrait pas finalement qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir d'abord pour passer ensuite à la suite. Et surtout de décomposer étape par étape parce que voilà, quand on dit comme ça créer un livre ou créer un programme en ligne, bah, mine de rien, c'est énormément de travail et c'est un peu voir la montagne d'un coup. Et ça peut être vite décourageant, donc moi je conseille souvent, et c'est ce que je fais aussi, de décomposer en sous-étapes, en sous-objectifs, et de se dire, bah tiens, tel mois je vais faire le plan, tel autre mois je vais pouvoir créer peut-être les visuels, et puis tel autre mois je vais filmer, et puis tel autre mois je vais monter, etc., etc. Mais vraiment d'y aller étape par étape, sinon on reste un peu paralysé, et on se met pas en action en fait.
Super, c'est à peu près, tu suis la méthode cartésienne, c'est-à-dire que tu as quelque chose qui est complexe et puis tu la décomposes en petites parties pour y travailler.
C'est ça.
Pour toi, quelles sont les qualités indispensables pour une femme qui entreprend un business?
Intéressant comme question. Alors je dirais d'être persévérante, ambitieuse et alors c'est, je sais pas si c'est forcément une bonne chose, mais je dirais se remettre en question, mais pas trop souvent non plus, parce que en fait de trouver un peu le juste milieu, de se dire ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses, donc dans ce sens là se remettre en question, mais pas se remettre en question dès que votre ami ou votre conjoint vous dit ah mais de toute façon tu rêves, tu vas jamais gagner 100 000 euros par an ou je ne sais quoi, ou 10 000 euros par mois, faut pas rêver. pour gagner de l'argent, il faut travailler. De ne pas se laisser engluer dans les croyances limitantes des autres, finalement. Et de rester vraiment persévérante et ambitieuse. Parce que c'est ce que une personne me disait il n'y a pas longtemps. Faut viser la lune pour au moins tomber dans les étoiles. Donc, il n'y a pas de mal à être ambitieuse. Au contraire, ça nous permet de nous dépasser, je pense.
Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu allies entre l'hypnose, la psychologie, l'entrepreneuriat. Ce qui est vraiment génial, et franchement, c'est t'es parmi les rares personnes que je connais qui font de la psychologie et qui ont cette ouverture d'esprit. Parce que c'est vrai que aujourd'hui on assiste à beaucoup, je veux pas généraliser, mais on assiste à des personnes par exemple qui sont dans un courant psychologique ou un courant de coaching par exemple, et du coup ils vont se faire un peu une petite gaga entre eux, et en fait ils se rendent pas compte qu'il y a une certaine complémentarité. Du coup, toi, par rapport à tout ça, ce qui se passe, c'est quoi ton positionnement, et même ton positionnement par rapport à tes pairs, du coup comment tu argumentes ta position?
Moi clairement, tu l'as dit, je suis très ouverte, et je trouve que finalement dans des méthodes qui sont complètement différentes, c'est complémentaire en fait. Il n'y a pas une bonne méthode ou une mauvaise, c'est simplement qu'on est tous différents, on va trouver chacun sa propre façon de faire. Et je pense que, au lieu de se tirer dans les pattes, effectivement, ce serait plus chouette de pouvoir allier tous ensemble un peu nos connaissances, nos compétences pour pouvoir vraiment les mettre à profit des personnes qui viennent nous voir pour ça en fait. Non, moi, je n'aime pas le mot concurrent, même si j'entends ce qu'il y a derrière, mais je pense que même si on était, 15 000 psy là, à travailler en même temps dans un même domaine, en fait, il y a de la place pour tout le monde et personne ne sera exactement comme toi. Donc, tu vois, c'est de se dire qu'on a aussi notre spécificité. Et les gens viennent nous voir, peut-être pour nos compétences, pour notre approche, mais aussi et surtout pour nous. Parce que mine de rien, quand on va voir un psy, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire quand il est d'approche analytique ou plutôt comportementale, etc. Nous, on veut juste quelqu'un qui parlait pour aller mieux, en fait. Donc, c'est important aussi de rester soi-même et puis de se dire qu'on n'a pas de concurrent à partir de là. De se dire que finalement, on est tous différents. Donc, même si on fait la même chose en soi ou on a fait les mêmes études, on ne va pas forcément l'amener de la même manière. Donc, on est tous complémentaires, pour moi. Et il n'y a pas de guerre à avoir. C'est dommage, en fait.
Amine, moi, je suis complètement d'accord avec ta perception. Et c'est vrai que je pense aujourd'hui, il y a la place pour tout le monde. Et puis, justement, il n'y a pas une mauvaise et une bonne méthode. Mais c'est à l'individu de trouver la méthode qui lui convient le plus. C'est plutôt ça, en fait.
Exactement.
Et du coup, justement, par rapport à tes activités, c'est quoi généralement ta journée type ?
Ma journée type, quand je ne suis pas au cabinet, ça va être le matin, le truc classique, ouvrir mes mails. Et puis ensuite, ça va être vraiment de créer mes contenus, tout ce que j'ai du coup de planifier. Et puis, moi, ma méthode un petit peu, c'est qu'en début de semaine, je vais faire tout ce qui me prend le plus d'énergie. Alors du coup, tout ce qui est articles de blog, podcast, etc., je vais le faire plutôt en début de semaine parce que c'est là où je suis plus en forme, finalement, après le week-end, non ? Et puis, au fur et à mesure que la semaine avance, je vais faire des tâches qui prennent moins d'énergie, moins de concentration, comme par exemple créer les posts sur les réseaux sociaux. Je regarde en même temps parce que j'ai mon planning à côté. Écrire les newsletters, des petites choses comme ça. Donc, vraiment, les journées ne vont pas forcément être pareilles. La seule chose qui ne change pas, c'est qu'effectivement, je reste devant mon ordi très, très, très souvent. Donc, c'est vraiment mail, ensuite création de contenu essentiellement. Et puis, après, ça va être de pouvoir échanger aussi sur les réseaux parce que créer du contenu, c'est bien, mais interagir, c'est mieux finalement.
Tout à fait. Et justement, c'est quoi les outils essentiels que tu utilises pour réaliser tes projets entrepreneuriaux et même ton activité de psychologue et d'écrivaine, et que tu vois vraiment pas ta vie sans eux?
Ça fait maintenant 1 ou 2 ans, je crois, que j'utilise Trello. Et c'est vrai que c'est là où je mets toutes mes idées. Si tu veux, si je perds Trello, je perds mon cerveau parce que j'ai vraiment tout posé dedans. Et donc là-dessus, je pourrais pas en passer. J'ai découvert un nouvel outil qui s'appelle Notion, mais j'ai encore du mal à tout migrer vers Notion. Donc pour l'instant, je garde un peu Trello déjà pour le calendrier éditorial plutôt et les idées de posts sur les réseaux sociaux. Donc j'aurais ça déjà. Pour la création de visuels Canva, je pense que ça, tout le monde l'utilise, tout le monde connaît. Et puis après, pour le libéral, ça va être tout ce qui est facturation, enfin le logiciel où on va rentrer effectivement le chiffre d'affaires. Comptable en fait, j'utilise Time-AE. Et puis j'utilise aussi un document Google Sheet en fait, que j'ai un tableau, hein, comme un tableau Excel en fait, où chaque mois je vais rentrer mon chiffre d'affaires et ça me calcule automatiquement combien je vais devoir payer de charges, d'impôts, etc. Donc ça c'est trop cool, ça se fait tout seul. Et puis c'est l'essentiel, il me semble, de mes outils, en tout cas indispensable. Ouais, ce serait cela.
Merci. Et du coup, quel est ton meilleur échec?
Mon meilleur échec, alors je dirais que c'était l'année dernière. Alors ça dépend quand on va écouter ce podcast, mais on va dire que c'était en 2019. Parce qu'avant de me lancer dans tout ça, là, mes activités de psy, etc., je me suis lancée en tant que community manager à mon compte. J'étais encore salariée à l'époque en 2019, mais j'avais envie de me lancer dans le community management. Donc je l'ai fait et j'ai eu mon premier client vraiment 1 mois après que je me suis lancée. Et ça a été un peu. Ben, la désillusion, parce que finalement j'avais envie de sortir de ce système du salariat, je voulais la liberté, etc. Et je me suis retrouvée un peu, entre guillemets, esclave du client, ben, parce qu'il ben, fallait faire tout ce qu'il voulait, répondre à ses exigences, ses demandes, etc. Et c'était pas du tout ce que je voulais, donc c'était vraiment la désillusion. J'ai jamais osé arrêter en fait ce contrat. Il s'est arrêté, enfin il s'est pas arrêté tout seul, mais c'est mon client qui a arrêté le contrat de lui-même, et en fait ça a été un soulagement. Donc j'en ai parlé il y a pas longtemps avec mon conjoint qui lui pensait que je l'avais très mal vécu, que c'était un échec, etc. Sauf qu'en fait ça m'a juste ouvert les yeux. Effectivement ça a été un échec dans le sens où bah finalement ça n'a pas donné suite parce que ça me correspondait pas. Et ça m'a permis aussi de me dire que ce système-là, bah, il me convient pas du tout. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai migré vers le SEO pour les thérapeutes. En fait, j'ai plus envie de faire à la place des autres. J'ai envie de donner tous les outils pour que les autres puissent faire eux-mêmes. Et c'est ça, en fait, le modèle qui me convient beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est ça mon meilleur échec, pour m'avoir ouvert les yeux et compris plein de choses, mine de rien, même si c'était pas facile pendant ces 4 mois.
Bah franchement, merci beaucoup pour ton partage, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, tu es une experte d'organisation et de création de contenu. Et je te dis, il y a des choses à faire aussi dessus, que tu peux entreprendre des projets par rapport à ça aussi.
C'est noté. Merci.
C'est quoi ton bilan du coup pour cette année 2020? Et c'est quoi tes perspectives pour 2021?
Alors, mon bilan pour cette année 2020, j'avais déjà fait un premier, pas pronostic, mais en tout cas une idée de ce que je voulais, à quoi ressemble 2020 quand j'ai lancé mon activité libérale, parce que je l'ai lancée en janvier 2020. J'ai pas atteint mes objectifs parce qu'il y a plein de choses qui se sont entremêlées, hein, notamment effectivement le confinement où j'ai eu 3 mois d'inactivité ou simplement 1 patient par mois. Donc autant dire que c'est pas avec ça qu'on va loin niveau chiffre d'affaires. Mais c'est pas grave parce que ça m'a permis d'avoir voilà, d'autres places pour mes autres projets finalement qui aboutissent aussi. Et pour 2021, mon ambition ce serait de tripler, tu vois, mon chiffre d'affaires. Je pense que c'est tout à fait réaliste. Si le Covid ne repointe pas son nez. Mais en gros, ça va effectivement être de tripler mon chiffre d'affaires et puis de lancer mon fameux programme, Mincir Autrement. J'ai vraiment axé tout là-dessus parce que, c'est comme dit, c'est un modèle en fait qui me correspond totalement, de pouvoir donner les outils aux personnes qui en ont besoin pour qu'elles puissent avancer à leur rythme, mais être là quand même de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps pour bah, justement accélérer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me convient totalement. Donc j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Ça va être mon grand défi de 2021, mais j'y crois.
J'y crois aussi. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler en exclusivité un peu plus de comment ça va se passer le programme pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent justement m'inscrire autrement?
Alors déjà, mon programme, il va s'adresser aux femmes. Alors, c'est pas forcément fermé aux hommes, mais voilà, je m'adresse en tout cas essentiellement aux femmes qui ont déjà un petit peu tout essayé, qui savent très bien manger équilibré, qui ont une bonne hygiène de vie, mais qui, mine de rien, n'arrivent pas à perdre de poids, tout simplement parce qu'il y a peut-être des blocages ou des petites choses comme ça qui sont d'ordre plutôt psychologique, sans tomber dans la folie, comme je le rappelle. Et du coup, c'est là-dessus que va axer mon programme, puisque du coup, on va aborder tout ce qui est croyances limitantes, les blocages inconscient, et c'est là que l'hypnose entre en jeu aussi, parce que qui dit croyance inconsciente ou blocage inconscient, bah, c'est difficile d'aller les chercher, puisque c'est inconscient justement. Donc avec l'hypnose, on peut vraiment utiliser cet outil pour mettre en lumière peut-être des choses dont on n'a pas conscience et permettre aux personnes d'avancer et de réellement, je vais pas dire régler leurs problèmes, hein, mais en tout cas avoir une autre compréhension de leur fonctionnement pour pouvoir après mettre en place les bonnes choses pour réussir à mincir durablement en arrêtant voilà, tout ce qui est régime, privation, etc. et juste en faisant la paix finalement avec soi-même, le côté un peu amour de soi, etc. C'est un challenge, mais c'est hyper important d'axer là-dessus. Donc le programme, il va se dérouler sur 12 semaines, donc ça va être sur 3 mois. Chaque semaine, il va y avoir voilà, des vidéos qui vont se débloquer. Et puis, moi, je serai en live aussi toutes les semaines pour répondre aux questions, aider les clientes, etc. Et puis, toutes les 3 semaines, on a un coaching de groupe pour qu'on puisse vraiment échanger ensemble et puis aller encore plus loin. Et ça va, le programme va ouvrir ses portes le 27 janvier. Donc, il y aura un petit challenge gratuit une semaine avant pour faire découvrir un petit peu tout ça. C'est un peu un avant-goût, un petit apéro, on va dire, de la suite. Et voilà, un petit peu pour comment va se dérouler les choses.
Super. Et du coup, quand tu parles des vidéos, c'est-à-dire que ça sera une sorte de formation, c'est ça?
Oui, en fait, si tu veux, ça va être des vidéos qui vont aborder une thématique. Et du coup, je vais également donner des petits exercices à faire pour qu'on puisse vraiment être dans l'action. Mais effectivement, c'est un petit peu comme module vidéo formation, mais après, il y a effectivement tout le côté accompagnement qui vient derrière pour supporter en fait les vidéos de formation.
Super, c'est hyper intéressant. C'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer?
N'attendez pas le bon moment parce qu'il n'existe pas.
C'est un très très bon conseil, merci. Ouais. Et du coup, si tu dois offrir un livre, ça sera lequel?
Ah, bonne question. Ça n'a pas forcément à voir avec l'entrepreneuriat, tout ça, mais je dirais que c'est le premier livre que j'ai acheté, et c'est comme ça que je suis tombée dans le développement personnel, c'est « Oser l'optimisme » de Catherine Testa. Je sais pas, ce livre, il m'a... Voilà, il a fait quelque chose, tu vois, il m'a vraiment ouvert... un autre monde, et j'ai adoré. Et puis en plus, c'est lu très facilement, c'est très léger parce que au cours du livre, il y a des petites citations. Enfin voilà, c'est pas un bouquin chiant ou quoi que ce soit, c'est vraiment ludique. Donc je dirais de commencer par là. C'est un peu comme ouvrir une porte, finalement. En tout cas, c'est comme ça, moi, que ce bouquin, il a fonctionné sur moi.
Et c'est marrant parce que moi, je la suis sur Instagram, mais je savais pas du tout qu'elle avait un livre, en fait.
Elle en a plusieurs, en plus.
Ah ouais?
Ben ouais, elle a aussi osé l'optimisme au travail, il me semble. Et j'ai pas encore celui-ci, mais voilà, il me tente bien aussi.
Ça marche. Et du coup, là, on va passer à la dernière partie de notre interview. En fait, je vais te poser
des questions.
Je sais
pas, j'ai en tout cas un animal qui serait calme. Je pense que ça me définirait bien, mais quel animal est calme?
La première chose que tu fais le matin?
Bah, j'ai envie de dire le dauphin, mais c'est parce que j'adore les dauphins, mais ça n'a aucun lien avec moi, tu vois. Donc,
Selon toi, qui incarne le mieux le mot réussite? Réussite,
qui incarne le mieux?
J'ai vu Conjuring.
Dire, Monica.
Ça ne m'étonne pas. Quel animal te présente le mieux?
Et ton plus gros défaut?
Je dirais, bah, selon moi, on va dire plutôt, c'est de pas de trop me laisser faire, en fait. D'être trop gentil, mais dans le sens négatif.
C'est quoi la chose que tu aimes faire et qui peut sembler bizarre pour les autres?
Ce serait de me former tout le temps. Le week-end, en vacances, j'adore ça. Alors que, en fait, les gens me prennent pour une folle parce qu'ils me disent, mais c'est les vacances, en fait, repose-toi. Parce qu'en fait, pour moi, le repos, c'est aussi de pouvoir me poser et puis de suivre une petite formation, tu vois. Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que tu veux dire comme dernière chose pour partager avec les personnes qui nous écoutent? Donc, si tu dois dire une dernière chose, ça sera quoi?
Ben, pour finir sur quelque chose, je dirais en fait, suivez vos rêves quelque part, enfin, faites les choses en fonction de vous et pas en fonction des autres, parce que sinon on se limite vachement et finalement on risque de passer à côté de sa propre vie et je trouve ça un peu dommage. Donc suivez vos rêves, ça fait un peu idéaliste dit comme ça, mais faites en tout cas ce qui compte pour vous. Voilà. Je t'en prie. Merci à toi.
J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas de partager autour de vous, d'en parler et de nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine.